Cet appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine. D'ailleurs, on est ensemble en direct ce soir exceptionnellement jusqu'à minuit et demi puisqu'on attend l'interview de Donald Trump qu'il doit donner à Fox News pour nous donner des détails sur cet échange téléphonique. Ce que l'on sait, c'est qu'une trêve mais partielle a été acceptée par le président russe uniquement sur les infrastructures énergétiques. Pour le reste, il pose des conditions, notamment l'arrêt de l'aide militaire occidentale. Antoine Lard, on vous retrouve en direct de Washington. Que dit ce soir la Maison Blanche au sujet de cet entretien?
Eh bien, écoutez, Donald Trump a donné une interview à un journal de Washington, le Washington Examiner. L'interview vient de sortir, j'en ai lu les premiers éléments. Donald Trump dit que ce coup de fil est un développement positif. Donc, Donald Trump veut retenir le côté positif. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas du tout obtenu ce qu'il espérait. Trump voulait convaincre Poutine d'accepter un cessez-le-feu total pendant une durée de 30 jours. Finalement, vous l'avez dit, le cessez-le-feu est très limité. Il y aura par la suite des négociations pour essayer d'élargir ce cessez-le-feu jusqu'à obtenir un arrêt des combats complet sur l'ensemble du territoire ukrainien. Trump dit que ça reste l'objectif, même si pour le moment c'est difficile. Ce soir à Washington, il y a aussi des critiques ou des commentaires assez durs contre Donald Trump. Sur CNN par exemple, on explique qu'en fait Poutine a dit non à Donald Trump et que s'il a lâché un petit peu de lest sur les bombardements sur les infrastructures énergétiques, c'est uniquement pour que Trump ne perde pas la face et ne s'impatiente pas, alors que Poutine en réalité cherche à gagner du temps. Donc il sera intéressant de voir comment Donald Trump ce soir répond à ses critiques sur Fox News, même si l'interview, on l'imagine, ne le mettra pas vraiment en difficulté. Fox News est une chaîne qui soutient Donald Trump, en tout cas qui lui est très favorable. L'autre chose que retient également la Maison Blanche aujourd'hui, c'est la normalisation des relations entre la Russie et les États-Unis, ce réchauffement entre les deux pays qui, je cite la Maison Blanche, comporte d'immenses avantages économiques. Et ça, c'est un élément très important. Ça laisse entrevoir la possibilité que Washington pourrait bientôt lever les sanctions économiques à l'encontre de la Russie, des sanctions qui frappent durement la Russie depuis 2014 et depuis l'invasion de la Crimée.
Merci beaucoup Antoine Lard. On se retrouvera dans les prochaines minutes pour suivre donc cette interview de Donald Trump à Fox News avec plus de détails potentiellement sur ce qu'il s'est dit lors de cet échange. Bonsoir Nicolas Tenzer.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de géostratégie à Sciences Po, auteur de Notre Guerre. Bonsoir Louis Saillant. Vous êtes ancien membre des forces spéciales, auteur de Chef de guerre. Elsa Vidal nous a rejoint et Yves Tréhard est toujours avec nous. Nicolas Tenzer, on est loin de la trêve totale qui était voulue par Kiev, voulue par les États-Unis. Est-ce que ce soir c'est une étape, comment vous la qualifiez? Est-ce que c'est une étape importante? Est-ce que c'est une avancée ou est-ce qu'il faut rester extrêmement méfiant?
En fait, c'est rien du tout.
C'est rien du tout.
C'est rien du tout, c'est-à-dire que de fait, Trump a cédé sur tout, ou en tout cas, il n'a pas obtenu ce qu'il était censé vouloir, pourrais-je dire. On a ce début de trêve apparemment annoncé sur les infrastructures énergétiques qui ont été d'ailleurs visées ce soir. Mais en fait, c'est une sorte de subterfuge de Poutine pour dire aux Ukrainiens, vous arrêtez de taper sur les dépôts pétroliers et les dépôts de munitions qui sont extrêmement efficaces dans la conduite de la guerre par les Ukrainiens pour répliquer effectivement à l'envahisseur. Donc concrètement, il n'y a pas de perspective de paix, il n'y a pas de perspective même pas de cesser le feu. Et je crois que là, on est devant la réalité, c'est que Trump est quand même complètement aligné sur Poutine, ce qu'on sait quand même depuis le début. Et même, imaginez, dans la perspective qu'évoquait tout à l'heure votre correspondant à Washington, de lever des sanctions, ce serait encore une sorte de nouveau cadeau fait à une Russie qui est quand même extrêmement mal en point. Donc, ce n'est pas une avancée, mais personne de sérieux ne pouvait s'attendre à ce que cette rencontre, ce coup de fil, effectivement, aboutisse au moindre résultat.
Mais pourquoi il a accepté cette trêve sur les infrastructures énergétiques ?
Alors, je pense effectivement pour demander aux Ukrainiens, moi j'accepte ça, mais alors vous arrêtez vraiment de viser mes dépôts, parce que c'est quelque chose qui marche, qui est atteint quand même profondément à la fois la Russie, mais aussi l'effort de guerre russe. Et donc ça, c'est quelque chose qui est une victoire des Ukrainiens. Et ils vont développer ça de manière de plus en plus forte au cours des mois qui viennent. C'est ça aussi qui est très important.
Louis Saillant, c'est un peu la difficulté que l'on a ce soir, c'est qu'on a des éléments qui nous parviennent, effectivement, sur cette trêve partielle sur les infrastructures énergétiques de 30 jours. Ces conditions qui sont posées par Poutine, qui dit voilà, il va y avoir des négociations techniques désormais qui vont avoir lieu pour une trêve ensuite en mer Noire, et puis après une trêve totale, un accord de paix, avec des conditions qui sont fixées, mais on ne sait pas ce qui s'est dealé précisément derrière cette trêve. Et c'est ça peut-être la problématique ce soir, c'est que le Kremlin parle d'une discussion franche et détaillée, donc ça signifie que, enfin, j'imagine que toutes les questions concernant les concessions territoriales, concernant les garanties de sécurité, concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, concernant l'avenir politique de l'Ukraine, de Volodymyr Zelensky, quand on dit détaillé, ça veut dire que ces sujets-là, ils ont été évoqués lors de cet entretien téléphonique?
Alors, bien sûr, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il y a, mais maintenant, on peut deviner. Et pour le deviner, il suffit simplement de voir quel est l'agenda de chacun. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est de savoir qu'il y a des papiers blancs qui ont été écrits, notamment par les ministères de la Défense américains, qui expliquent bien que l'enjeu aujourd'hui, ce ne sont pas les Russes. Les Américains n'ont pas de problème avec les Russes, enfin en tout cas militairement parlant. Eux, leur gros enjeu, c'est qui? C'est la Chine. Donc on a d'un côté quelqu'un dont l'enjeu principal, c'est la Chine, et de l'autre, on a des Russes dont l'enjeu principal, c'est effectivement la négociation de ces territoires dont vous avez parlé. Et un troisième acteur qui est l'Ukraine, qui lui a pour enjeu la défense vis-à-vis de la Russie. Donc on a des agendas qui rentrent en collision. Et donc il faut bien comprendre que aujourd'hui l'essentiel, enfin il y a quand même un point qui est essentiel à retenir, c'est que si jamais cette relation américano-russe se réchauffe, cela veut dire que potentiellement dans le futur, la Chine peut avoir une frontière qu'elle va partager avec. Peut-être pas un allié complet, mais quelqu'un qui a des sympathies avec les Américains. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a bouleversé un peu l'échiquier au niveau mondial.
Elsa, il y a un des négociateurs russes qui a réagi ce soir et qui parle de perfect call.
Oui.
Donc ça nous donne quand même des indications.
Du côté de l'équipe de négociation et de Kirill Dmitriev, qui dirige à l'heure actuelle un fonds souverain d'investissement russe, donc son travail, c'est de faire fructifier les avoirs russes et qui mène notamment les négociations pour le rapprochement économique entre les deux pays, a récemment publié, enfin, à 20h ce soir, publié sur son compte X, une première chose, it's a perfect call, et ensuite, eh bien, sous le leadership de Vladimir Poutine et de Donald Trump, dans cet ordre-là, le monde ne s'est jamais trouvé dans une situation plus sûre qu'aujourd'hui. Donc, sous le double chapeautage américano-russe, il y a simplement par l'accord entre les deux leaders une amélioration de l'état du monde et véritablement la situation en Ukraine est abordée comme un moyen en vue d'une fin. Le moyen pour relancer la relation russo-américaine et aujourd'hui une information qui est assez passée inaperçue, c'est que eh bien, Vladimir Poutine a parlé des conditions de retour des entreprises occidentales en Russie, notamment les américaines. Bon, elles ont une petite chance. Il y a même un fonds d'investissement, un hedge fund, qui a été créé et qui va servir pour récupérer les avoirs gelés. Et les Américains qui ont fait ces signes donc d'ouverture à Vladimir Poutine, ils vont pouvoir réinvestir le marché russe, tandis que ceux qui ont claqué la porte, comme disait Vladimir Poutine, ne pourront pas revenir. Et ça, c'est nous. Nous ne pourrons pas revenir. Et donc, le partage, finalement, du potentiel commercial a déjà commencé. Il y avait un énorme projet d'hydrocarbures en 2011 entre ExxonMobil et Rosneft. Et il va revenir, ce projet, sur les fonds baptismaux très vite. Donc, les Américains auront le droit d'explorer les pétroles de l'Arctique russe. Et les Russes, en contrepartie, de quoi était-il question? Eh bien, qu'ils puissent forer dans le golfe du Mexique.
On va revenir dans un instant sur ce rapprochement russo-américain et sur les arguments aussi économiques qu'il y a derrière. Mais Volodymyr Zelensky, la réaction ce soir du président ukrainien qui dit, bon, certes, une trêve sur les infrastructures énergétiques, c'est déjà ça, mais qui reste extrêmement méfiant et qui attend de s'entretenir avec Donald Trump pour précisément connaître les détails de ses discussions avec Vladimir Poutine.
Non seulement il attend, mais en réalité, il demande des explications à Donald Trump. Il veut s'entretenir avec le président américain au plus vite pour avoir des détails. Parce que effectivement, ce soir, il y a d'un côté le communiqué de l'agence russe TASS et de l'autre, les quelques lignes publiées par la Maison-Blanche. C'est-à-dire, en fait, très peu. Ce qui ressort ce soir du côté ukrainien, c'est que en réalité, on est très inquiet sur ce qui va arriver ensuite. Parce que effectivement, on a le sentiment que ce soir, c'est une pression maximum qui est mise sur Trump avec les déclarations de Poutine qui veut finalement l'impossible pour l'Ukraine, c'est-à-dire l'arrêt total des fournitures d'armes, l'arrêt de la mobilisation, bref, c'est la capitulation. Alors, les Ukrainiens sont inquiets, mais ils ont décidé en fait quand même de répondre poliment à Donald Trump et surtout, ils continuent à se battre. Les deux présidents, finalement, n'ont convenu que d'un cessez-le-feu partiel. Et c'est ça la seule nouvelle concrète ce soir, c'est cessez-le-feu partiel immédiat contre les infrastructures énergétiques, les centrales énergétiques russes ou ukrainiennes.
Et ça se vérifie, pardonnez-moi Elise, mais ça se vérifie ce soir sur le terrain avec des dizaines de drones d'attaques qui ont été interceptés, notamment au-dessus de Kiev. Donc il n'y a pas de cessez-le-feu total.
C'est le résultat, purement sur le seul résultat concret annoncé, c'est le cessez-le-feu dit immédiat par Donald Trump. On va voir si ce soir il donne plus d'explications. Le reste, c'est pour l'instant, c'est l'affaire des négociateurs, mais on voit bien qu'en Ukraine, on a une réelle inquiétude, et donc on continue à se battre, c'est ce que je voulais vous dire, notamment dans la poche de Koursk, qui est donc un territoire russe, qui était annoncé comme tombé à nouveau, ou retombé aux mains des Russes. Eh bien, les Ukrainiens, et le président Zelensky l'a dit ce soir, continuent à résister, et d'une certaine manière, pour essayer d'arracher un moyen de négociation avec la Russie. C'est peut-être un espoir qui est vain, mais ce qui est important, c'est qu'ils disent « on continue le combat ». C'est-à-dire, ça traduit la volonté générale de l'Ukraine. C'est-à-dire que si on arrive à une situation où c'est la capitulation ou rien, eh bien, les Ukrainiens préféreront continuer à faire la guerre, avec le soutien des Européens qu'ils attendent et dont les Européens viennent de réaffirmer.
Les Européens continueront de soutenir Volodymyr Zelensky, même si un accord se dilait entre Russes et Américains sur le dos des, oui, des Ukrainiens. Vous en êtes convaincu?
Moi, j'en suis convaincu, parce que sinon, ce serait le suicide de l'Europe. C'est-à-dire que si aujourd'hui les Européens cessent leur livraison d'armes à l'Ukraine, n'aident pas l'Ukraine autant qu'ils le peuvent, et ils doivent faire certainement beaucoup plus parce qu'ils peuvent faire plus, eh bien effectivement l'Europe va tomber. Alors d'abord elle aura perdu toute légitimité, toute réalité, je dirais en tant que puissance, mais aussi puissance fondée sur des principes. Mais ce sera après, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, la guerre qui va être portée plus loin en Europe. Et ça, nous le savons, et en particulier si, comme l'évoquait Elsa tout à l'heure, les sanctions sont levées, que vous avez ces accords incroyables, effectivement, entre les Américains et les Russes, ça va redonner une sorte d'oxygène à la Russie qui est particulièrement dangereux pour l'Europe. Donc aujourd'hui, il y avait une chance, en fait, du côté européen. C'est qu'il n'ait pas été tout de suite parti de l'accord ou des soi-disant négociations. Et je pense que c'était un atout qui a été trop peu souligné, parce que ça leur permet justement, et aux Ukrainiens aussi, et ensemble, de dire non à ce pseudo-accord éventuel entre Trump et Poutine.
Yves Tréard, sur ces conditions qui ont été posées par Vladimir Poutine pour aller plus loin dans les négociations, il dit voilà, il faut arrêter toute aide militaire, toute aide en matière de renseignement également à l'Ukraine. Est-ce que Donald Trump peut l'accepter? Est-ce qu'il doit l'accepter? Est-ce que pour faire avancer les négociations, on est contraint de faire confiance à Vladimir Poutine, ce qui paraît complètement impensable?
Alors, quand vous dites est-ce qu'il doit l'accepter, je dirais non. Évidemment qu'il ne doit pas l'accepter. Sauf que il a un engagement, Donald Trump, il a un engagement auprès de sa population à qui il a promis la paix. Et il ne faut pas oublier qu'il s'est fait élire sur cet objectif. Et que lui, ce qu'il recherche, c'est la paix à tout prix. Et que l'Europe, à mon avis, il va vite s'apercevoir qu'il en a besoin de l'Europe. Aujourd'hui, il fait mine de l'ignorer quasiment, y compris d'ailleurs dans les relations commerciales qu'il a avec elle. Mais l'Europe, il va nécessairement avoir besoin de l'Europe à un moment ou à un autre. Comme l'a dit Elsa d'ailleurs, ne serait-ce que d'ailleurs, ou vous, quand vous avez dit que dans son rapport à la Chine, il a besoin de décrocher la Russie et de la tirer vers lui. Ben c'est pareil pour l'Europe. L'Europe, il peut pas la laisser flottante. Il faut qu'elle soit du côté occidental. Donc, diviser l'Occident, c'est pas son intérêt. Mais dans l'immédiate, oui, parce que il faut absolument qu'il ait la paix. Il faut absolument que cette paix, il arrive à l'imposer. Il l'avait promise en quelques jours. Eh bien, c'est l'Ukraine, ouais, qui en fait.
Il a besoin d'afficher cette paix auprès des électeurs.
Pour lui, c'est rien.